O. Henry entre de Rounds. La lune de mai éclairait brillamment la pension de famille de Mrs. Murphy. Je suis content de reconnaître que cette faveur astrale n'était point uniquement réservée à la résidence en question. Le printemps s'apprêtait à remplacer le coryza par le rhume des foins. Dans les jardins, les poires n'étaient pas encore mûres, mais en revanche, les parcs publics regorgeaient de négociants accourus à New York, du sud et de l'ouest, en tournée d'achat. Les végétaux et les agences de location de stations balnéaires commençaient à fleurir. L'air et les relations familiales s'adoucissaient progressivement. La consommation du charbon diminuait et celle de la bière augmentait. Mais vous trouverez tout cela reste dans la chanson du printemps de Mendelssohn. Les fenêtres de la pension étaient ouvertes. Devant la porte, au bout du perron, quelques-uns des pensionnaires prenaient le frais, assis sur de petites nattes rondes, de l'épaisseur d'une crêpe alsacienne aux pommes de terre. À l'une des fenêtres du second étage, se tenait Mrs. McCaskey, guettant l'arrivée de son mari. Le dîner commençait à se refroidir sur la table. Les calories qu'il perdait accroissaient d'autant la température de Mrs. McCaskey. À 9 heures apparut M. McCaskey, pipe aux dents et veston sur le bras. Il s'excusa en traversant le groupe des pensionnaires, tout en choisissant parmi eux, sur les marches, les espaces de pierre susceptibles de recevoir ses boxes Scalfcard 4, grande largeur. En ouvrant la porte de son logement, il reçut un choc. Au lieu d'être confronté, comme d'habitude, par le hachoir ou le presse-purée, il ne fut accueilli que par des paroles. « Oh, sans doute, se dit M. McCaskey, la bénigne lune de mai a-t-elle adouci les entrailles de son épouse ?»« Je t'ai entendu. » C'est ainsi que débute le discours que remplacent ce soir-là les projectiles ménagers. « Tu demandes pardon à des rien du tout parce que t'as marché sur leur frusque avec tes ribouilles. Mais tu piétinerais ta femme depuis la tête jusqu'au talon sans même t'en apercevoir. Et moi qui me démanche le cou à regarder par la fenêtre si tu viens et le dîner qu'est froid. Il y a seulement de quoi acheter des provisions. Avec quoi que tu vas boire ta semaine au bistrot tous les samedis soirs et l'employé du gaz qui est venu 2 fois aujourd'hui. Femme, dit McCaskey en jetant son veston et son chapeau sur une chaise, le boucan que tu fais est une offense à mon appétit. Tu te rends pas compte qu'en déblatérant ma politesse, c'est comme si tu enlevais le métier qui scelle les briques de la société. Y a-t-il rien de plus normal pour un gentleman qu'à pas de manière que de demander l'assentiment des dames qu'obstruent l'entrée quand ils passent au travers. Allez, maintenant débarrasse la fenêtre de ta gueule de cochon et occupe-toi de la croûte. » Mrs. McCaskey se leva pesamment et se dirigea vers le fourneau. Il y avait quelque chose dans son attitude qui avertit M. McCaskey. Quand il voyait les coins barométriques de la bouche conjugale s'abaisser brusquement, il savait qu'il fallait prévoir une averse de vaisselle et de ferblanterie. « Gueule de cochon, hein ?» dit Mistress McCaskey. Et au même instant, elle lance à la tête de son seigneur une cocotte pleine de lard et de navets. M. McCaskey n'est pas un novice dans l'art des échanges balistiques. Choisissant le plat suivant sur le menu du jour, il riposte aussitôt avec le rôti de porc au chou déjà servi sur la table, ce qui lui attire la réplique appropriée d'un crime de pudding. Projeté avec adresse par le maître de maison, un bloc de gruyère atteint Mrs. McCaskey en pleine figure. Visant confusément, elle contre-attaque au moyen d'un pot de café noir et bouillant. Le menu étant épuisé, l'on pourrait penser que les hostilités vont s'arrêter là. Mais Monsieur Macasquet n'est pas un habitué de ces restaurants populaires à bon marché, où les poèmes fauchés considèrent le café comme l'indiscutable terminus gastronomique. Non, Monsieur Macasquet est d'une classe supérieure et plus avertie. Il connaît l'usage des rince-doigts. Cet ustensile raffiné est malheureusement inaccessible aux clients de la pension Murphy. Mais son ersatz est à portée de la main. Triomphalement, le seigneur du logis empoigne la bassine à laver la vaisselle et la précipite à la tête de son adversaire matrimonial. Mistress McCaskey réussit juste à esquiver le projectile qui doit normalement servir de conclusion au repas et à la bataille. Mais quoi, un dîner sans liqueur? Que non! Saisissant une bouteille d'eau de Javel, Mistress McCaskey la brandit et se dispose à en servir une ration intégrale à son époux, lorsqu'un hurlement terrible, paraissant provenir du rez-de-chaussée, retient sa baliste brachiale, prête à se détendre, et provoque aussitôt une sorte d'armistice involontaire. Sur le trottoir, en face de la maison, le policeman Cleary, l'oreille tendue vers le champ de bataille, écoutait le fracas de ce duel gastronomique. « C'est encore Macasquet et sa dame, » murmure le policeman d'un air méditatif. Faut-il que gibote les faire taire? Oh non, ils sont unis par le sacré-lien du mariage. Ils n'ont pas beaucoup de distractions. Il n'y en a plus pour longtemps maintenant. Sûrement, faudra qu'ils achètent de la vaisselle s'ils veulent remettre ça souvent. C'est alors que retentit au rez-de-chaussée le hurlement, générateur de paix et annonciateur de calamités inconnues. Bon, ça doit être le chat, se dit le policeman Cléré en s'éloignant rapidement. Les pensionnaires assis sur le perron se levèrent aussitôt, partagés entre l'angoisse et la curiosité. Mr. Tournay, un policier placier de naissance et investigateur de métier, se précipita à l'intérieur pour analyser l'interjection. Il revint avec la nouvelle que Mike, le petit garçon de Mrs. Murphy, était perdu. Derrière le messager surgit presque aussitôt Mrs. Murphy. 100 kilos de beuglements, de déluge lacrymal et de gesticulations hystériques, pleurant la perte de 30 livres de taches de son, de malice et de sournoiserie. Très pathétique, Monsieur Tournay, qui s'est rassis près de Miss Pardee, la modiste, lui étreint les mains en signe de compassion. Les deux vieilles filles, les demoiselles Walsh, celles qui se plaignent tous les jours qu'on a fait trop de bruit dans le rôle, demandent immédiatement si quelqu'un a regardé la pendule. Le major Griggs, qui est assis et auprès de sa grosse femme, se lève et boutonne son veston. « Le petit est perdu, » s'écrie-t-il, « moi je vais fouiller la ville. » Sa femme, qui d'habitude ne lui permet jamais de sortir après dîner, réplique d'une voix chaude de baryton, « Va, Ludovic, quiconque peut contempler la douleur de cette mère sans se précipiter à ses secours, un cœur de pierre. Donne-moi 5 ou 10 francs, mon amour, » dit le major. « Les enfants perdus s'égarent parfois très loin. Il faudra sans doute prendre des tickets d'autobus. » Le vieux Denny, 4e étage, chambre 27 sur la cour, qui siégeait sur la dernière marche, en essayant de lire son journal à la lueur du réverbère, tourna la page et poursuivit la lecture de l'article relatif à la grève des charpentiers. Mistress Murphy implora la lune en ces termes. « Oh, ouche, nos hôtes petits Mike, seigneur, où qu'il est, mon petit garçon ?» « Que c'est-il que vous l'avez vu pour la dernière fois ?» demanda le vieux Denny, sans perdre des yeux le rapport des commissaires de l'industrie du filotiment. « Oui, j'ai mis ça à ma trône. Ça doit être hier. Enfin non, je veux dire, il y a 4 ou 5 heures. Je sais pas bien. Il est perdu, mon petit Mike. Mais ce matin encore, il jouait sur le trottoir. Oh, c'est dit ce matin. Oh, j'ai tellement de travail que je peux plus me rappeler les dates, mais j'ai fouillé toute la maison, de la cave au grenier, et j'ai pas trouvé. Oh, Seigneur, Seigneur! Silencieuse, farouche, colossale, la grande ville se venge toujours de ses détracteurs. Ils disent qu'elle est dure comme pierre, qu'aucun sentiment de piété n'éclot dans son sein. Ils comparent des rues aux forêts désertes et aux torrents de lave. Mais sous la carapace du homard, se trouve-t-il point une chair tendre et délicieuse? Oh, peut-être cette comparaison n'est-elle pas très adéquate. Cependant, nul ne peut s'en offenser. Après tout, nous refuserions d'admettre l'identité d'un homard qui n'aurait point de bonnes et fortes pattes. Aucune calamité n'émeut autant le cœur de l'humanité que celle qui frappe la mère d'un enfant perdu. Pauvre petit pied faible et incertain, égaré dans les voies étranges et périlleuses. Le major Griggs courut jusqu'à la prochain croisement, tourna dans l'avenue à droite et s'introduisit prestement dans le Billy's Bar. « Whisky, un grand !» commande-t-il au garçon d'un ton décidé. « Dis-moi, poursuit-il après qu'une longue gorgée lui a permis de retrouver l'usage de la conversation, « oh, pas vu quelque part par ici un sale petit morveux de 6 ans qui s'est perdu? Barbouillé, grêle, jambes torses, non ?» Mr. Tourmery n'a pas lâché sur son perron cythéréen la main de Mrs. Purdy. « Quand je pense à ce pauvre petit bébé, sursurt-elle, si loin maintenant du sein de sa mère, fauché peut-être à cette heure par la jante d'acier d'un cruel camion de pommes de terre, oh, n'est-ce pas terrible ?»« Oh, ils ont des pneus !» rectifie timidement Monsieur Tourney. Les camions, ajoute-t-il en constatant l'air intrigué de Miss Pardy et en lui pressant la main. Dites, s'écrie-t-il soudain, voulez-vous que j'aille les aider à chercher? Oui, peut-être que c'est votre devoir, monsieur Tourney. Mais vous êtes si audacieux, si imprudent. Avec votre touillant tempérament, si vous arrivez quelque chose, un accident, qu'est-ce que... Avec l'aide de son index droit, le vieux Denis achève la lecture de l'arbitrage du ministre des Labours et Traductions. En leur chant clos du second étage, Mr. et Mrs. Cassé apparaissent en même temps à la fenêtre, profitant de la pause pour reprendre haleine. Monsieur McCarkey, au moyen de chiquenaudes réitérées, chasse les navets qui collent à sa veste. Et son épouse essuie un œil que le gruyère et la sauce du rôti n'ont point embelli. Aux échos du tumulte causé par le drame de l'enfant égaré, ils se penchent tous les deux par la fenêtre. C'est le petit Mike qui est perdu! Fait Mrs. McCaskey d'une voix étouffée. Le pauvre beau mignon, petit ange! Le môme qui est perdu? Dit Monsieur McCaskey en plongeant ses regards vers le sol. Oh, ça, c'est un coup dur! Les gosses, c'est pas la même chose. Oh, si j'étais une femme, je m'en ferais pas, parce qu'au moins, on a la paix quand elles sont parties. Négligeant ce coup droit, Mr. McCaskey saisit le bras de son mari. John, dit-elle d'un ton sentimental, le petit gars de Miss Murphy, qui est perdu! Perdu dans cette grande ville, à son âge. 6 ans qu'il a, John. Juste le même âge que mon petit à nous, si on avait cru il y a 6 ans. Ben, on n'en a pas eu, fait le positif McCaskey. Mais si on avait eu, John, pense à ce qu'on aurait de chagrin dans le cœur ce soir, avec notre petite Albert qui serait sauvée en ville. Peut-être qu'on nous l'aurait volé encore. Tu bafouilles, dit Monsieur McCaskey. C'est Patrick qu'on aurait appelé, comme mon vieux père, qui a Catherine. Blagueur, fait Mrs. Macasley, sans se fâcher. Mon frère Albert, vaut-il pas mieux que 10 douzaines de Macasley à la manque? Se penchant de nouveau par la fenêtre, elle contempla un instant le remue-ménage qui bouleverse le rez-de-chaussée. John, dit-elle d'une voix tout imprégnée de miel, j'ai peut-être été un peu vive avec toi.
Bon sûr, dit l'époux, que c'était du rapide, comme tu dis. Et le 9 minutes et le pudding à la seconde et le café après exprès. C'est ce qu'on appelle un dîner à la vapeur, comme tu dis, pas vrai.
Mrs. McCaskey glisse son bras sous celui de son mari et saisit la main mâle et calleuse.
Écoute, ce pauvre Miss Murphy qui pleure, dit-elle. C'est terrible pour un petit gosse d'être perdu dans cette grande ville. Si c'était notre petit Albert, John, ça me briserait le cœur.
Gauchement, l'homme retire sa main. Néanmoins, il prend sa compagne par les épaules.
C'est bête, bien sûr, dit-il rudement. Mais j'en serais tout retourné, moi aussi, si c'était notre petit Patrick qui avait été kidnappé, ou je sais pas quoi. Mais on n'a jamais eu d'enfants, tous les deux, Julie. Il y a des fois que j'étais méchant avec toi. Allez, n'y pense plus.
Serrés l'un contre l'autre, ils assistent en silence maintenant au drame qui se joue en bas. Cela dure assez longtemps. Sur le trottoir, la foule s'est amassée, criant, questionnant, grouillant, gorge en l'air de rumeurs avides et de conjectures imbéciles. Au milieu d'elle, flotte en tous sens la grosse Mrs. Murphy, telle une montagne gélatineuse le long de laquelle se précipite une bruyante cataracte de larmes. Soudain, le bruit redouble et la rue s'emplit d'une rumeur excitée, indiquant qu'un événement inattendu vient de modifier rapidement la situation.
« Qu'est-ce qui se passe à présent, Judy ?»
demande M. McCaskey.
« Ah, je reconnais la voix de Mrs. Murphy, » dit Mrs. McCaskey, tendant l'oreille. « Elle dit... Elle dit qu'elle vient de retrouver le petit Mike endormi derrière le vieux tapis qui est roulé sous le lit de la chambre. »
Mr. McCaskey ricane bruyamment.
« Lève-la, ton Albert !»
gueule-t-il d'une voix sarcastique.
« Oh, c'est pas mon Patrick qu'ils auraient joué ce sale tour-là. Si le gosse qu'on n'a jamais eu s'perd un jour, mis le pétard, et si on le retrouve sous le lit comme un sale roquet, ce jour-là, tu pourras l'appeler Albert. »
Mrs. McCarthy se leva pesamment et se dirigea vers le placard à vaisselle. Les coins de sa bouche viennent de subir une baisse barométrique brusque et accentuée. Le policeman Cleary apparut au coin de la rue au moment précis où la foule apaisée se dispersait. En arrivant devant la pension Murphy, il tendit l'oreille d'un air étonné. Dans le logis des McCaskey retentissait de plus belle le fracas des poteries, des ustensiles métalliques et des arts ménagers. Le policeman tira sa montre.
« 16 alligators !» s'écrie-t-il. « Il y a 1 heure et quart que John McCaskey est en train de se battre avec sa femme. Et 40 livres au moins qui lui rend l'honneur à son bras. »
Le policeman Cléret s'éloigne aussitôt et disparaît au premier tournant. Le vieux Denis plia son journal et grimpe rapidement l'escalier. Oh, il était temps. Mrs. Murphy allait fermer la porte.